livre plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous, Clotilde Sey, qui va bien, merci, au micro de Canal M, productrice de l'émission du balado des livres plein les oreilles que vous recevez à chaque semaine sur toutes les plateformes de balado ou presque, ou encore sur le site de Canal M, la radio de l'inclusion. Cette semaine, un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques. Oui, mais là, vous vous dites, ouais, mais là, au moment, c'est fini les Jeux. Oui, je sais, mais au moment où je prépare cette émission, on est en plein dedans. Alors, petit clin d'œil aux Jeux Olympiques. Vous allez voir, c'est plutôt deux, trois petits clins d'œil plutôt rigolos. Et puis, j'en parle souvent parce que c'est la réalité. C'est comme ça que les choses se passent au moment de programmer cette heure passée avec vous autour du livre audio. Eh bien, cette heure-là est marquée inévitablement par l'actualité, mais aussi par mes préoccupations parfois. Et cette semaine, il s'agit des deux, étroitement mêlés, alors que le jour où je programme ces livres, j'apprends que les avions n'iront plus à Cuba pour une durée déterminée, pour le moment en tout cas, jusqu'à la fin avril. Mais alors certains s'inquiètent pour leur retour au pays, d'autres pour leur destination voyage. Moi, je dirais que je ne m'inquiète ni pour les uns ni pour les autres. Il y aura toujours des avions pour les ramener à domicile. Et puis, bah, pour le reste, les gens iront ailleurs ou resteront chez eux, que sais-je. Mais ce qui m'inquiète, évidemment, ce sont les Cubains. Imaginez-vous, soudain, vous, sans électricité, ça, c'est pas nouveau chez eux, mais là, ça va être pire. Souvent sans eau, ça, c'est nouveau. Ils peuvent passer 2 à 3 jours sans eau par semaine. Parce que ça marche à l'électricité. Donc, s'il n'y a pas de pétrole pour faire marcher l'électricité, il n'y a pas d'eau, etc. etc. Pour manger, je vous avouerai que mes amis m'ont rassuré. Ils m'ont dit, oh, tu sais, t'en fais pas. Il y a toujours les poissons dans la mer. Il y a toujours les conques dans le sable. Il y a toujours les algues. Tout ça, ça se mange. Oui, OK. Encore faut-il habiter un front de mer. Bref, c'est une crise humanitaire qui s'annonce. Et je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas le sujet de cette émission. Mais au moins, je me disais, essayons personnellement et collectivement de penser à eux, peut-être d'élaborer des plans d'aide ou tout simplement de ne pas les oublier, par exemple en écoutant quelques pages de littérature consacrées à ce pays en perdition. Alors Cuba, donc, oui, c'est un pays que j'aime, c'est un pays où je vais régulièrement. J'y ai des amis que j'appelle mes frères et sœurs parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. C'est sûr, ça crée des liens. Je connais leurs enfants, je connais même maintenant leurs petits-enfants. Et c'est évident que je suis inquiète pour eux. J'ai choisi parce que malheureusement, le choix n'est pas très large en ce qui concerne le livre audio commercial qui s'intéresse à la vie à Cuba. Il y a celui-ci dont j'avais déjà parlé, mais il y a comme un tome 2 qui est sorti assez récemment et qui s'appelle Habana Business Club. C'est un livre qui fait rire. Ça commence en 1994. Il y a un Français qui s'appelle Maurice Villard qui débarque à Cuba avec deux de ses amis pour y fonder quoi ? Une boulangerie. Mais à Cuba, rien ne se déroule jamais comme prévu. Alors c'est un méli-mélo entre affaires politiques et espionnage. Interrogatoire aussi assez drôle, merci. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre-là est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire l'histoire de ces trois bonhommes-là qui sont arrivés à Cuba avec les valises pleines de poudre. Mais la poudre, cette fois-ci, c'est vrai, c'était pas de la poudre, c'était de la farine. Et ça n'est pas plus facile. Je vous avouerai que c'est pas un chef-d'œuvre, Habana Business Club, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ça donne lieu à quelques bons rires. Et puis, ça donne la possibilité de mieux connaître le fonctionnement étatique cubain quand on essaie de s'infiltrer dans l'île avec des bonnes, mauvaises idées extraites.
Ça va, camarade Bronski? T'as dormi tout le voyage?
Oh ouais, Marseille, ça m'a épuisé. Bon, écoute, Maurice, on fait une connerie, là. On va se retrouver en prison. Les douanes à Cuba, c'est pire qu'au State. On n'a même pas le droit de passer une pomme, tu le sais très bien.
T'inquiète, ça va aller. Au pire, on se fera un beau séjour touristique.
Ouais, c'est... on va se retrouver en taule, c'est sûr.
Tu préférerais rester à Marseille?
Mais non, c'est pas la question.
Tiens, j'ai la douane. Sors ton passeport. Messieurs, bonjour. Voilà.
Vous pouvez m'ouvrir cette valise? La noire.
Laquelle?
La noire.
Juan Giral et José Gomez. Vous avez dans vos dossiers?
Non, je ne les connais pas. Mais affranchissez-moi, monsieur Villard.
La Havane, septembre 1994. Bureau du service des renseignements cubains.
Je vous le répète, je suis ici par la volonté de Castro et je n'en sortirai que par la force du peuple. Le peuple est avec Castro, donc le peuple est avec moi. Le peuple veut du pain et je vais lui offrir du pain.
Ça, c'est beau, Juan. Le señor Villar, il est invité.
Tais-toi, José, tu me fatigues. C'est le chef qui t'a demandé d'installer une boulangerie ici?
Lui-même.
Ah oui, ah non, non, alors là, là, c'est différent. Les... nous avons besoin de gens comme vous pour renforcer nos échanges avec l'Europe. Hein? Pas vrai, José?
Si, si, tu as raison, Juan. Surtout si c'est le chef qui lui a demandé.
Voilà. Excusez-nous hein, pour cet petit arrangement, Seigneur Villard. Nous ne faisons que notre boulot pour la sécurité des crocs. Hein?
Oui,
je comprends. Je suis libre alors?
Oh, si, bien sûr, vous êtes libre. Et elle s'appellera comment votre boulangerie?
Pain de Paris.
Ah, c'est bon ça.
Revenons à vos affaires. Vous négociez avec qui à Cuba?
Ah là, c'est magnifique. Raúl Castro avait commencé à former des généraux aux méthodes capitalistes dès 1986, en les mettant à la direction d'entreprises hôtelières et touristiques.
Des généraux?
Ah oui. Les officiers n'avaient plus rien à faire dans les campagnes internationalistes. Le plus acharné, c'était Bebo Hidalgo, un ancien colonel. C'était le dirigeant de la Cubana Libre, la tour de contrôle des activités touristiques à Cuba. C'est avec lui que je devais négocier l'implantation de notre boulangerie.
Et comment ça s'est passé?
On l'a vu avec Bronski, qui m'a demandé juste après « Qu'est-ce que tu penses de notre entrevue avec Hidalgo ?» Moi, je reste toujours prudent, pour ne pas dire sceptique.
Mais entreprenant.
Je dis à Bronski qu'on a affaire à de gros poissons en face, des concurrents revenus à Cuba et qui reçoivent les ministres sur leur yacht.
Mais Bebo Hidalgo vous en a quand même fait voir de toutes les couleurs, non? Vous savez ce qu'il tramait?
Non, il aurait fallu être là pour le savoir.
Voilà, ça s'appelle le Habana Business Club. Un livre dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est le bouquin qu'il faut avoir lu pour mieux connaître la Havane et ses habitants et son île de manière plus générale. C'est « Dieu n'habite pas la Havane » de Yasmina Kadra. C'est lu par Bernard Gabet. C'est d'abord un chant d'amour, que c'est comme ça qu'on nous le présente et c'est très vrai, qui est dédié à toutes ces fabuleuses destinées des années 50 qui ont été contrariées par le régime que vous savez ou par une espèce d'injustice du sort qu'elles n'ont pas choisi. Mais alors là, Havane, c'est un personnage complet dans ce livre-là. Vous savez, tout ce que vous imaginez, l'espèce de bleu turquoise, de vert, de jaune, décrépit. La splendeur oubliée, parce qu'on imagine derrière ça que ça a dû être absolument magnifique. Et puis alors, il y a tous ces personnages qui traînent, qui hantent la ville, comme Juan del Monte Robana, qui ne vit que pour chanter. Il a chanté, entre autres, au très célèbre Buena Vista Café, en plein cœur de Cuba. Et puis, ben voilà, il a perdu sa job et depuis, il erre à Cuba, comme beaucoup d'autres. Voici un extrait de Dieu n'habite pas la Havane, de Yasmina Kadra, la voix de Bernard Gabet.
Mon père ne croyait pas dans les idéologies qui relèvent plus de l'élevage que du lavage de cerveau, ni dans les révolutions qui se contentent d'inverser les tyrannies au lieu de les renverser, ni dans les guerres aux mémoires courtes qui font croire qu'il y a des causes plus précieuses que l'existence, ce qui le révoltait par-dessus tout. Il aimait la vie, avec ses hauts et ses bas, ses miracles et ses imperfections, ses kermesses et ses minutes de silence. Mon père était capable de composer un songe à partir d'une volute de fumée. Il profitait de chaque fête comme si c'était la dernière, persuadé que nos rares mérites sont les moments de joie partagés avec les êtres que nous chérissons et en dehors desquels le reste n'est que concession. C'est lui qui m'a appris à faire d'un sandwich un festin. C'est encore lui qui m'a certifié qu'être un homme, un vrai, revient à ne pas essayer d'être autre chose que soi-même. De cette manière au moins, on ne trompe personne. Le seul conseil qu'il m'a donné est « Vis ta vie ». D'après lui, c'était l'unique conseil sensé. Dans les années 50, il m'emmenait écouter les rois du boléro, de la guajira, de la charanga. Je découvris ainsi cette sacro-sainte charité humaine sans laquelle le monde ne serait qu'un chahut démentiel, la musique, ce don magnifique que Dieu envie aux hommes. Défilaient dans les guinguettes assiégées Celia Cruz, Eduardo Davidson, Pérez Prado et toute une clique de musiciens chevronnés fabuleux. À l'époque, la Havane ne dessoulait guère. Les cabarets vibraient au rythme du cha-cha-cha. Le mambo ensorcelait les noceurs et les rues grouillaient de trovaderos et soneros paumés en quête de gloire. Je me souviens, au sortir des nightclubs, que des femmes pimpantes et éméchées se laissaient embarquer dans des bagnoles colossales en riant aux éclats. Dans les casinos aux enseignes rutilantes, les nababs claquaient leur fric sans compter. Et au fin fond des quartiers défavorisés, y compris le plus pauvre d'entre eux, Santos Suarez, il y avait partout, sur le pas des portes ou à même le trottoir, des insomniaques inspirés en train de taper sur des caisses de morue. La Havane était le paradis des gros bonnets de Floride, des familles de Baltimore, des bootleggers en rupture de stock et des parrains convalescents. Les cercles mondains se voulaient citadelles imprenables où n'étaient admis que les cols blancs. Cependant, malgré la ségrégation qui frappait jusqu'à nos gouvernants, il ne nous était pas interdit à nous, les Afro-Cubains, de fantasmer à la périphérie des liesses arrosées. On avait le droit de crever de faim, mais pas celui de bouder l'écho des percussions. Un soir, dans une salle archibondée, j'avais assisté à un concert d'El Barbaro del Ritmo, l'inimitable Benny Moré. Quel choc! Je venais de rencontrer mon prophète. J'avais 10 ans, et donc toute la vie devant moi, pour faire de la musique mon culte, et de chaque partition une messe. C'est ainsi que je suis devenu chanteur. Je m'appelle Juan del Monte Jonava et j'ai 59 ans. Dans le métier, on me surnomme Don Fuego, parce que je mets le feu dans les cabarets où je me produis. C'est ma mère qui m'a initié au chant pendant qu'elle me portait dans son ventre. À ma naissance, mes cris retentissaient d'un bout à l'autre de l'hôpital. On raconte que les infirmières me pinçaient les orteils pour me forcer à pleurer, émerveillé par la pureté de ma voix. Les sceptiques trouveront que je force un peu le trait. Ils ont le droit de le penser. Je ne fais que consigner ici ce que l'on m'a raconté. Ma carrière pourrait se résumer à mon répertoire de standards, c'est-à-dire aux chansons que j'emprunte aux autres, car malgré ma virtuosité, je n'ai pas réussi à intéresser un parolier ou un compositeur. Je connais tous les succès de la rumba et du son que j'interprète avec brio, mais personne ne m'a gratifié d'un texte qui soit à moi. Rien qu'à moi, avec mon nom gravé sur le disque. Bien sûr, j'aimerais éditer un tube avec ma photo sur la jaquette, survolter les troquets avec mes chansons à moi, ou écouter distraitement ma musique dans un taxi, tandis que le chauffeur perd de vue la route.
Viene echando candelita, caballero, este muchacho sí que toca bonito y la pone tremenda.
Bon, allez. Pas de commentaire, mais vous savez comment je me sens en ce moment, là, tout de suite. Je ne peux pas quitter l'île sans vous signaler que les livres de Leonardo Padura, qui est sûrement un des deux, trois auteurs les plus célèbres de Cuba, qui vit encore à La Havane, ces livres-là, vous allez les trouver sur toutes les plateformes de livres audio, en espagnol, en anglais, en danois, en allemand, mais pas en français. Bon, personnellement, je les ai lus, de mes yeux lus, mais cela dit, les livres de Padua existent en audio accessible via Bibliocaeb, notamment, vous savez, cet organisme dont vient Faline Bobier, qui va venir vers nous dans 2 semaines pour nous présenter quelques-uns de ces livres-là pour vous qui n'avez peut-être plus vos yeux ou vos mains pour avoir accès aux livres imprimés. Allez, on file à Paris, place des Vosges, sous les arcades de l'une des plus prestigieuses places de la capitale française, hein, la place, c'est une des 5 places royales de Paris, et bien sous les arcades, vous pourrez trouver, si vous y allez, allez-y et vous penserez à moi, vous allez trouver un homme qui s'appelle Bachir. Bachir, il a un territoire très fragile, c'est quelqu'un qui parle très doucement, c'est quelqu'un qui récupère, qui sauve et qui redonne, qui remet en circulation ce que d'autres abandonnent, c'est-à-dire des livres. Il dit, Bachir, un livre jeté, c'est comme une histoire qu'on étouffe, je ne supporte pas ça. Alors ça fait drôle de voir dans ce cadre absolument idyllique et charmant et très luxueux et très bourgeois, de voir ce type qui étend comme ça ses livres et qui vous les tend en plus quand vous passez. Ça me fait penser à cette histoire très triste il y a quelques années alors que j'avais vu des gens vider un sous-sol, leur papa était décédé. Et dans le sous-sol en question, c'était une vraie bibliothèque. Donc c'est bien, ils ont décidé de mettre tout ça dans la rue. Formidable. Le problème, c'est qu'ils ont mis ça 1 heure avant que ne passe le camion du recyclage. Donc moi, j'ai eu tout juste le temps, parce que je passais là, de prendre quelques livres, dont un exemplaire de la première version de Maria Chapdelaine. Et en tout cas, mais imaginez les trésors qu'il y avait là-dedans et tout a été écrapouti dans un camion de recyclage. J'en pleure encore. On s'en va à Paris avec Métronome Paris intime au fil de ses rues avec Laurent Deutsch. Nous sommes derrière la Sorbonne.
Dans le charnier situé devant l'église, un cimetière entouré de galeries couvertes, un chirurgien répondant au nom de Germanus Collo pratique en 1475 et en public la première opération de la maladie de la pierre. Le patient est un archer de Bagnolet, condamné à être pendu pour vol et souffrant bien à propos de douloureux calculs rénaux. Comment s'y prend l'homme de l'art? Les rapports tardifs sur cette première chirurgicale sont confus. On ne sait même pas si le calcul se trouvait dans la vessie ou le rein. Les vagues notions d'anatomie, dont faisaient preuve les spectateurs du temps, débouchent sur des témoignages approximatifs. Quoi qu'il en soit, l'opéré survit à l'épreuve et le voilà sur pied 15 jours plus tard. Quand on sait les miasmes qui s'échappaient des cimetières au Moyen-Âge, on se dit que l'archer devait être d'une constitution particulièrement robuste pour avoir évité l'infection mortelle. Pour solde de sa peine, le roi Louis XI lui accorda la grâce et lui octroya un petit pécule. Le vieux cimetière paroissial a disparu depuis le XVIIe siècle, mais les arcades du charnier médiéval sont toujours là. Au pied de l'église, aux arches de style gothique flamboyant, les tombes d'autrefois sont discrètement rangées dans de petites niches et la fosse commune a fait place à un apaisant square arboré délimité par les arcades de l'ancien charnier. Le mot du quartier. Guillemet, nom masculin, signe typographique double qui sert à isoler un mot ou une phrase pour en souligner soit l'emprunt, soit la bizarrerie. En remontant la rue Saint-Jacques, en prenant à droite après le boulevard Saint-Germain, on arrive rapidement à l'angle des rues Jean de Beauvais et de Latran. À cet endroit s'élevait en 1552 une maison à l'enseigne de la grosse escritoire. Guillaume Lebé, propriétaire des lieux, était un imprimeur réputé. Habile fondeur de caractères romains, grecs et hébraïques, il se trouvait fort dépourvu quand il s'agissait de mettre en exergue typographiquement un texte cité. Il inventa donc une ponctuation qui s'ouvrait judicieusement devant la citation et se refermait à la fin. Et chacun bientôt baptisa Guillemet ces signes conçus par Guillaume. De nos jours, le terme est même entré dans le langage gestuel. les deux mains levées, les index et les majeurs recourbés pour figurer les guillemets, on souligne de cette manière imagée le ton ironique d'un propos ou d'un mot. 46 rue Saint-Jacques, la chambre de François Villon. Ici, vous trouverez aujourd'hui l'arrière de la Sorbonne, département didactique du français langue étrangère. À cet angle de la rue des Écoles, avant le percement de cette voie en 1854, se dressait l'église du cloître Saint-Benoît. Très jeune, un certain François de Montcorbier est confié aux religieux de la communauté, et particulièrement au chapelain Guillaume de Villon, qui deviendra plus qu'un père pour l'enfant. Puis vient le temps d'aimer, belle demoiselle croisée dans les églises ou prostituée hardie rencontrée à la taverne. Son cœur se déchire, et il l'écrit. « Je laisse mon cœur enchâssé, pâle, piteux, mort et transi. Elle m'a ce mal pourchassé, mais Dieu lui en fasse merci. » Au moment de signer ses vers pour la postérité, le poète choisit de rendre hommage à son maître. C'est ainsi qu'il deviendra pour l'éternité François Villon. Un poète mauvais garçon. En 1455, devant l'église Saint-Benoît, il tue un prêtre au cours d'une algarade. Fait de la prison, participe à un vol au collège de Navarre, doit fuir, revient à Paris, retourne en cellule pour un petit larcin, est bientôt relâché. Il erre souvent Villon. Il voyage un peu. Il séjourne à Angers, à Moulins, à Blois. Il est incarcéré à Main-sur-Loire, mais conserve toujours sa petite chambre du cloître Saint-Benoît, son modeste logis d'écolier où il fait très froid l'hiver, mais dans lequel le garnement entasse ses maigres biens. Quelques livres, des chandelles, un encrier, des tréteaux pour écrire, un lit qui n'est qu'un cadre de bois tendu de sangles, des habits élimés, des souliers usés et un long manteau. C'est son royaume intime, son refuge, le lien qui le relie à son enfance, au temps du bonheur simple et des éblouissements faciles, au temps où le gibet ne menaçait pas encore.
Laurent Deutsch, comédien, mais passionné d'histoire, de mots, passionné par Paris, mais pas que. J'ai découvert récemment, c'est sorti en 2024, qu'il avait rédigé un bouquin sur la Bretagne, l'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et villages. Bresse, donc, B-R-E-I-Z-H, la Bretagne en breton, une péninsule où il y a 6000 ans, des peuplades venues des confins du monde ont planté dans le sol des pierres de plusieurs tonnes qui se dressaient comme autant de suppliques vers le ciel. C'est de cela dont il va être question. Il va être question, ce sera encore mieux, dans l'extrait qui suit.
Et si tout commençait par la fin ? Oui, par la fin. Par l'instant où l'homme puissant, mais ignorant de ses origines, quitte la vie, et où son peuple choisit de l'inhumer de manière imposante, de lui ériger une sépulture rare, un monument majestueux, visible de loin. Il ne s'agit plus d'un trou creusé à la hâte dans la terre pour y enfouir le disparu, ainsi qu'on le fait depuis des millénaires. Il faut maintenant voir plus grand, aller plus haut, comme pour s'approcher du ciel mystérieux. Ce faisant, on arrache le défunt à la terre. Il quitte cet espace entre forêt et mer qu'il a tant aimé, magnifié, mais qui n'était peut-être qu'un lieu de passage. Alors, pour honorer le disparu, ils ont cherché le point le plus haut de la lande. Ils ont élevé encore cette éminence en apportant de la terre et des pierres pour dessiner une butte artificielle, bientôt creusée de corridors et de chambres funéraires. Une architecture de la mort, pour mieux accompagner les vivants qui s'en vont. Puis, ils ont porté ici le défunt et ont déposé autour de lui ses haches de guerre et son collier de perles. Ils ont marqué ainsi leur présence en ces lieux, comme pour mieux indiquer leur halte dans le grand mouvement des peuples en marche. Car ils sont venus de loin. Des rivages de la Méditerranée, ils sont remontés plus haut, toujours plus haut, en longeant l'Atlantique. D'autres, au même moment, sont venus d'ailleurs, des côtes d'une autre mer, celle qu'on désignera un jour comme la mer Noire. Jaillis du sud et de l'est, ces peuples vont inventer cette terre qui sera plus tard l'Armorique gauloise, puis la Bretagne celtique. Il y a plusieurs millénaires, en pleine période du néolithique, l'âge de la pierre polie, des peuplades inconnues ont fusionné ici pour repenser leur monde. Elles ont agi sur l'environnement, ont transformé le paysage, coupé des pans entiers de forêts, planté des champs pour faire pousser du blé, créer des pâturages pour élever des moutons. Ces peuples nomades ont ainsi adopté la géographie pour engendrer l'histoire. Alors, ils se sont ancrés mieux encore dans cette géographie en rendant un culte vénérable aux ancêtres, à ceux qui ont été enfouis avec apparat sous la colline, aux morts qui demeuraient auprès des vivants, réels toujours dans leur éternité, présents sans doute comme une protection magique. Mais approcher le ciel, aspirer à un infini à peine envisagé, ce n'est pas seulement inhumer ses héros dans une structure surélevée, c'est aussi dresser des pierres, élever des suppliques muettes vers l'ignoré, lancer des harangues silencieuses aux dieux lointains, adresser des prières éperdues aux forces nébuleuses. Redescendant du tumulus funéraire, allant vers la mer, les hommes ont créé d'étranges chemins, des voies bordées de pierres dressées pour se diriger vers un devenir de spiritualité, pour croire, cesser de craindre, espérer. En abandonnant le nomadisme, ces peuples ont renoncé à regarder en avant pour diriger leur attention vers le haut. À Karnak, près de 3000 menhirs de granit disposés en 7 alignements étendus sur 4 km dessinent des lignes diverses, droites, en cercle ou en éventail. Comment les dresser ? On creuse une fosse soigneusement garnie de pierres de calage et puis, grande épreuve, on fait pivoter la pointe de la pierre afin de la faire entrer lentement dans cette fosse. Le menhir glisse dans le trou et, tiré sans doute par des cordes, se redresse tout doucement. Quand il est debout, enfin, la cavité est comblée de sable, de terre et de cailloux. Le monument se trouve désormais solidement implanté et peut voir défiler les millénaires sans frémir. Généralement de forme oblongue, d'un poids moyen d'une dizaine de tonnes, ces pierres prennent parfois des contours surprenants. Base étroite, élargissement vers le haut, ventre déployé, recourbement. À l'occasion, ces alignements de menhirs s'ouvrent sur un cromlech ou un dolmen. Les pierres prennent ainsi d'autres dispositions, d'autres formes. Inspiration architecturale, hasard ou message venu du fond des temps. Elles apparaissent ici comme des remparts et là comme des tables inamovibles, attendant peut-être encore les hommes qui ont imaginé un culte rendu à des divinités oubliées.
Il y a deux minutes avec un extrait de Métro Bresse, donc Bresse comme Bretagne, pardon, en breton, B-R-E-I-Z-H, de Laurent Deutsch, lu par Lionel Monnier. Qui dit menhir dit obélix. Ben oui. Alors on va quitter la Bretagne pour aller dans la Gaule, parce qu'ils viennent de sortir au Duolib Astérix aux Jeux Olympiques. Ben oui, toi, on aime ça, le combat des chefs de Uderzo et Goscinny, parce qu'à l'époque, c'est pas d'hier, hein, Astérix aux Jeux Olympiques, il n'a pas été créé, ces deux-là étaient encore en vie avec nous. Alors vous me direz, pourquoi revenir sur les Jeux Olympiques alors qu'ils sont finis ? Ben parce que je vais m'en ennuyer. Nah. Non, c'est vrai, j'aime ça, moi. Ben oui, la sportive de salon que je suis, a virevolté, j'ai poussé, j'ai sué, j'ai crampé, j'ai hurlé, j'ai broyé avec les athlètes, qu'est-ce que vous voulez, je suis une bonne spectatrice de ça. Surtout quand c'est pas moi qui ai les patins aux pieds, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Alors, et puis j'avais oublié d'en parler aussi. Tu sais, j'aurais dû en parler, en fait, il y a déjà deux semaines pendant que... Mais bon, écoutez, il y avait autre chose, et puis voilà. Alors, ce sera donc pour maintenant les Jeux Olympiques. Il n'y a pas grand-chose en audio, mais j'ai trouvé ceci qui vient de sortir Astérix aux Jeux Olympiques. Et on va tout de suite en écouter un extrait. Moi, ça me fait rire.
Peu après... En présence d'Astérix, Obélix et Panoramix.
C'est quoi, au juste, les Jeux Olympiques ?
Les Jeux du stade ! Les Jeux sacrés, placés sous l'égide de Zeus, se déroulent tous les 4 ans à Olympie, en Grèce, chez les Hellènes, au mois d'Hécatombéon.
« crains rien. Je te soutiens, Mordicus. C'est facile, je suis le meilleur. Maintenant, je vais aller m'entraider dans les bois.
Oh, ce qu'il y a de merveilleux, c'est son moral. Avec un moral comme ça, il ne peut pas perdre.
Une petite pointe de vitesse. Je suis l'homme le plus rapide du monde.
Pendant ce temps, un peu plus loin dans la forêt...
Ah, Obélix, je me sens en pleine forme pour chasser le sanglier. Panoramix m'a donné à boire de la potion magique qui rend invincible.
Ouais, moi je n'en ai pas eu, sous prétexte que...
Qu'est-ce qu'il y a,
ce Romain?
Ben, je ne sais pas. On le poursuit, peut-être?
Je vais aller lui demander.
Hop, hop, je suis le plus rapide.
Hop, 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 hop. Moi aussi. Pardon, il y a quelqu'un qui le poursuit?
Hein?
Obélix! Laisse Romain tranquille! Et retournons chercher les sangliers!
Bon.
Ils m'ont rattrapé. Tous les deux. Mais. Au javelot, en tout cas. Hop! Je suis le plus fort!
Obélix, pourquoi tu lançais ce tronc d'arbre sur le Romain? Il ne nous dérangeait pas. Oh, il ne faut pas en vouloir à mon camarade, Romain.
Ben quoi? Il m'a jeté un bout de bois à la tête. Je lui en ai jeté un autre. Nous sommes quittes.
Ça va pas se passer comme ça. Par Jupiter! Toi, le gros, je te prends à la lutte. Au pugilat, au pancras. Là, je suis meilleur. Là, je suis...
Je ne suis pas gros. Et une fois pour tout. Tu me trouves gros?
Mais non, Obélix, t'es un peu bas de poitrine, c'est tout. Bon, alors on va les chasser, ces sangliers?
Et de retour au camp d'aquarium, c'est un cornedurus dépité qui retrouve le centurion Mordicus.
Si un minable.
Comment un minable? Qui t'a dit que tu étais un minable?
C'est moi qui ai dit que j'étais un minable. Tout le monde est plus fort que moi. J'ai été battu par tous les Gaulois que j'ai rencontrés. Un petit mal bâti et un gros bas de poitrine. Tout le monde.
Les Gaulois. Oh, par Jupiter. Oh, ça faisait longtemps que nous n'avions pas affaire à eux. Retourne dans ta tente, champion. Repose-toi.
Je ne suis pas un champion, je suis un minable. Je veux faire les corvées. Je vais chercher un balai. Pas trop lourd.
Non, je vais aller les voir, moi, ces Gaulois. Préparez mon cheval.
Et le centurion Mordicus fait une entrée remarquée dans le petit village gaulois.
Romain ?
Je veux voir ton chef gaulois.
Mais il est occupé.
Dis-lui que c'est important. C'est une démarche officielle.
Bon, bon, ne nous énervons pas. Le ciel ne tombe sur la tête de personne. Oh, à bras raccourcis, notre chef. Un Romain veut te voir.
Ah non.
C'est chaque fois la même chose. Chaque fois que je suis dans mon bain, on me dérange. L'année dernière et celle d'avant, ça n'a pas raté. Enfin, puisqu'il s'agit d'une visite officielle, observons dignement le protocole. Installez le bac sur mon bouclier, vous autres, et sortons. Je t'écoute, ô Romain.
Eh bien, voici. Un de mes hommes a été désigné pour représenter ma garnison aux Jeux Olympiques. Et des Gaulois de ta tribu, sans raison aucune, se sont amusés à le décourager. Tout ce que je demande, c'est qu'on laisse mon champion s'entraîner tranquille.
Je réfléchirai, Romain, et je te ferai savoir ma réponse. Salut!
Alors la réponse sera que un défi va être lancé. Les deux hommes, les deux chefs vont s'affronter pendant les Jeux Olympiques lors de la course de chars qui est l'épreuve reine. C'est un petit peu le marathon actuel, dont le vainqueur sera jugé digne d'épouser une princesse en plus. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la médaille d'or. Bon, alors dans l'immense stade qui sera placé sous l'autorité de César. La foule va retenir son souffle, mais en attendant, comme vous l'avez entendu, on s'entraîne. Astérix, tout le monde s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Ce qui m'amène encore à des Jeux olympiques, mais pas les mêmes Jeux olympiques, les Jeux olympiques de chiens pourris. Ça, chien pourri, là, c'est un cartoon, un dessin animé, mais qui passe aussi à la TV, chez nos voisins français. Ça fait, écoutez, ils aiment tellement ça, les petits, que chien pourri a le droit à tous ces produits dérivés, des peluches, des agendas, des choses comme ça. Alors, chien pourri, c'est un chien errant. C'est un chien pas beau, qui pue parce qu'il vit dehors. Il s'appelle chien pourri. Eh bien, finalement, ce qui va arriver là, c'est que Chaplapla et chien pourri organisent les premiers Jeux olympiques de l'histoire devant leur propre poubelle. Alors, au programme des Jeux olympiques, quartier des huppés contre quartier tout pourri. Voilà, du chien, c'est parti. Avec piscine en petit bassin, tennis de vieille table, tournoi de foot babal, lutte gréco-germaine, chiot périlleux, 100 mètres caniveau et plein d'autres jeux plus loufoques les uns que les autres. C'est absolument délicieux. C'est enregistré en multivoix avec plein de comédiens dont je ne vous citerai pas la longue liste qui ont enregistré ça. Voici un extrait pour les petits. Mais pour les grands aussi, moi aussi j'aime ça, ça me fait bien rire. Chien pourri aux Jeux olympiques.
Demain, après l'école, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que le soleil brille, il n'y aura pas une ombre au tableau. Il organisera avec Chaplapla les premiers Jeux olympiques de l'histoire.
Ah, cet affreux Jojo ne mérite pas. Bon, allez, poussez-vous, j'ai un champion entraîné.
À entraîner, vous voulez dire?
Non, je dois traîner partout, celui-là. Et sa sœur, c'est pas mieux.
Quel gentil papa, sévère mais juste.
Pense chien pourri.
Bon, allez.
Et tandis que Jojo repart en trottinant et Josette en trottinette, chien pourri se demande comment se faire apprécier de cette famille d'affreux Jojo.
Allez, avance, gros nul.
C'est toi qui es nul.
C'est celui qui tue qui est.
Le lendemain, chien pourri et Chaplapla dressent la liste des épreuves qui attendront les candidats.
Piscine en petit bassin, entre parenthèses caniveau.
Tennis de vieille table.
Tournoi de foot babal.
Je veux aussi un lancer de sœur.
Exige Jojo.
Pardon ?
S'étonne Chaplapla.
Oui, ma sœur Josette m'embête à dire tout le temps que je suis nulle, alors que c'est elle la nulle.
On ne peut pas faire ça.
Mais c'est mes Jeux olympiques ou pas ?
On n'y arrivera jamais.
On s'en sortira toujours.
Et si Chien pourri garde son enthousiasme et s'imagine remporter une médaille sous les hurrahs de quelques rats, Chaplapla, lui, réfléchit au difficile recrutement des athlètes.
Au JO, les athlètes viennent de tous les pays du monde, Chien pourri. C'est ce qui fait la beauté du sport.
Eh bien, nos athlètes viendront de tous les quartiers et de toutes les poubelles. C'est ça qui fera la mocheté du nôtre.
Bien dit, Chien pourri, brou.
Chien pourri et Chaplapla partent coller des affiches sur les réverbères, les bancs, les boulangeries, les murs et les poubelles de la ville pour recruter des participants.
On va tout rafler. Hein.
Prévient le basset en petit survêtement.
Je vais tous les coiffer au poteau.
Ajoute le caniche à franges.
Pour le quartier des huppés,
crie-t-il en chœur.
Pour le quartier tout pourri.
Répondent trois canards boiteux.
Ouais, c'est ça, quand un gros nul.
Quelques curieux hésitent à se lancer dans l'aventure. Un pigeon sur béquille demande à un rat borgne s'il souhaite participer aux 100 mètres caniveau. Tandis qu'un chien d'aveugle demande s'il peut venir accompagner.
Je pensais pas qu'il y avait autant de losers dans le quartier.
Ouais, on va les battre, pas de temps.
Finalement, c'est l'effervescence qui gagne tous les quartiers de la ville. Les affichettes passent de main en main, les dossards de dos à dos, si bien qu'au petit matin, une foule se presse devant la poubelle de chien pourri.
Oui, ça me fait rire. Pourtant, j'ai entendu 10 fois, parce que quand je prépare tout ça, je n'entendais pas combien de fois. Alors, chien pourri aux Jeux olympiques. Allez, on s'en va tout de suite vers, non pas 2, mais 3 nouveautés. Tout d'abord, à peine plus loin que Le Soleil de Sophie Rouvier, lu par Olivia Nicosia. L'histoire est celle d'Adèle, une jeune femme célibataire, du genre très mélancolique, pas très communicative, très peu de douceur pour elle, elle n'a pas beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui semble végéter, elle s'ennuie dans sa vie et dans sa profession de laborantine. Et puis, à un moment donné, elle va frôler la mort. C'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir dans l'extrait qui suit, et ça va pousser la jeune femme à remettre en question son existence, qu'elle sent de plus en plus inconfortable et incontrôlable, et elle décide de retourner au pays de sa grand-mère, dans le Pays basque. Voici le début du livre de « À peine plus loin que le soleil » de Sophie Rouvier.
L'effet papillon, c'est par cette métaphore que l'on résume habituellement la théorie du chaos. Concept selon lequel un infime changement s'amplifie potentiellement au fil du temps jusqu'à engendrer de considérables conséquences. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Est-il bien raisonnable de vouloir imputer un malheur à des principes mathématiques approximatifs ou à des concepts physiques discutables? Quoi qu'il en soit, en cette fin de journée printanière, c'est une succession de faits anecdotiques qui mena Adèle Renoir sur la trajectoire d'un bus de ville. Difficile de déterminer précisément ce qui modifia le cours des choses, fit basculer son destin ou dévier le cap de sa courte vie. Tout d'abord, Adèle quitta le laboratoire en retard. Mue par un souci de bienséance, elle avait perdu quelques minutes en feignant de sourire aux blagues lamentables du coursier, à ses tentatives vaines d'humour gras, tout à base de Belges, d'Américains et de poupées gonflables. Ensuite, et contrairement à l'habitude qui était la sienne de préparer ses vêtements à l'avance, elle avait choisi ce matin-là, sur un coup de tête, de passer un gilet cache-cœur, lequel lui donna du fil à retordre dans les vestiaires et amplifia un peu plus encore son retard. Mais peut-être faut-il principalement imputer les minutes supplémentaires accumulées à ce couple d'amoureux planté tout à côté de l'entrée de son lieu de travail. Comment expliquer que lorsqu'Adèle croisa la version 3.0 des tourtereaux immortalisés par Doineau, elle se sentit troublée au point de perdre l'équilibre et de vaciller sur ses sandales compensées. Pourquoi plutôt que de se rattraper à la seule chose à portée de main, en l'occurrence la vieille dame aux cheveux bleutés qui passait par là, elle recula et descendit du trottoir. Plus que le battement d'ailes d'un papillon, c'est en réalité la combinaison de ces trois éléments qui précipita Adèle sur le bus lancé à 35 km/h. Quelques secondes avant le choc, figée sur la chaussée, Adèle tourna lentement la tête en entendant les cris d'alerte d'une femme. Elle distingua concomitamment le visage du conducteur, sa pâleur, ses traits déformés par l'effroi, ses yeux légèrement exorbités sous l'afflux soudain d'un taux anormal d'adrénaline, ainsi que le crissement des pneus sur le bitume. L'appréhension de l'impact ne fut pas ce qu'Adèle perçut de plus dramatique, non? À cet instant où, en esquissant un pas de côté, il lui aurait été encore possible de grimper sur le trottoir, de furtives pensées se bousculèrent dans son cortex. Là où, dans les films, il est promis instinct de survie et meilleur cliché d'une vie, Adèle ne reçut pour la postérité que des flashs déstabilisants de platitude. Elle pensa au beurrier, oublié sur la table de la cuisine, à la pile de vêtements qui ne serait jamais repassée, et à la saga d'Elena Ferrante qu'elle n'aurait pas l'occasion de terminer. Durant son dernier quart de seconde, alors qu'il lui était encore possible de réagir, elle prit conscience du néant qui lui servait de vie. Qui peut donc voir du beurre, du linge et des livres inachevés défiler en lieu et place de ses proches et de quelques moments précieux? Alors, plus déterminée qu'elle ne l'avait été de toute son existence, les poings serrés et fermement plaqués sur ses hanches, elle ne bougea pas d'un pouce. Voilà comment, alors qu'elle se rendait à la station de métro, Adèle Renoir eut un étroit contact avec le bus C de 18h07 qu'elle ne croisait habituellement jamais. «
Fab Caro, c'est un dessinateur, on le connaît pour ça, pour les amateurs du genre. Fabrice Caro, il vient de signer en 2025 un livre qui s'appelle « Les derniers jours de l'apesanteur ». Ça se passe à la... Comment je dirais ça? C'est l'année du bac, autrement dit, c'est la dernière année du cégep, quoi, avant d'aller à l'université. Alors, nous, en première année, il y a le bac de français et en terminale, il y a le bac. Et c'est toute l'insouciance autour de l'amour, autour de la mort qui peut régner entre un groupe de jeunes, quelques copains qui vont franchir cette étape-là de la dernière année scolaire secondaire avant d'aller à l'université. Je vous en propose un extrait, « Les derniers jours de l'apesanteur » de Fabrice Caro.
Valérie Berger et Nicolas Morin avaient eu une aventure l'année précédente, durant 2 mois. Pendant cette période, on les voyait souvent assis sur un banc de la cour, ayant l'air de ne rien avoir à se dire, lui son bras autour de ses épaules, rigolant avec ses copains à sa gauche, elle discutant avec ses copines à sa droite. À 17h, à la sortie des cours, il lui roulait une pelle expéditive devant le portail du lycée et chacun s'en allait prendre son bus. L'amour de sa vie. La cour frémissait de « Tu as su pour Nicolas Morin ?» ou « Tu as su pour Nico ?» selon le cercle auquel on appartenait en fonction de notre classement dans le top souffrance. Celui qui parvenait à l'apprendre à quelqu'un qui ne le savait pas encore gagnait aussitôt des points d'aura. Plus on le savait tôt, mieux on était classé. Les jours suivants, la disparition tragique de Nicolas Morin servirait d'alibi dans toutes sortes d'occasions. Un professeur réprimandant un élève pour un devoir non rendu se verrait répondre « Pardon, j'ai perdu un ami le week-end dernier. » Le professeur, au courant de la tragédie, se décomposerait, son expression se teinterait de tristesse et de culpabilité. Quel monstre était-il donc pour se soucier d'une copie non rendue à l'aune du décès d'un ami ? Oui, bien sûr, je comprends. En une semaine, les amis intimes de Nicolas Morin se multiplieraient comme une poignée de gremlins sous la pluie. J'ai rejoint Marc et Justin sur le banc du fond de la cour. Justin a dégainé le premier. « T'as su pour Morin ?»« Ouais. » Voilà. Nous avions fait le tour de la question. Aucun de nous ne l'avait eu au téléphone le jour de sa mort, n'avait failli être dans sa voiture, n'avait de cousin DJ au Machico. Nous n'avions pas l'énergie de nous construire un lien. De l'autre côté de la cour, nous parvenait encore l'écho suraigu du chagrin de Valérie Berger. Justin s'est fendu d'un « on dirait du Yoko Ono ». Je me concentrais pour garder mon sérieux. Ça n'était pas un jour à rire. Nicolas Morin venait de mourir, notre ami Nicolas Morin. En allant au cours d'espagnol, je me suis trouvé dans le couloir nez à nez avec Cathy Mourier. Nous avons échangé un bref regard avant de baisser les yeux en même temps. Chorégraphie parfaitement synchronisée, ballet d'un passé révolu. Cathy Mourier et moi avions vécu une belle histoire d'amour qui avait duré quelques mois, 2 mois et 17 jours exactement, au début de l'année scolaire avant qu'elle n'ait un coup de foudre inexplicable pour Gilles Rouquet, du jour au lendemain. Elle s'était excusée, elle était désolée, elle était sûre que je trouverais quelqu'un de bien, je méritais d'être heureux. Je pensais pourtant qu'entre nous c'était du sérieux. Je l'avais même présentée à mes parents. Durant notre idylle, elle était venue chez moi à plusieurs reprises. Le samedi après-midi, nous montions dans ma chambre pour échanger de chastes baisers. Baisers qui ne faisaient pas long feu, ma mère avait un sens très particulier du timing. Au moment même où nos visages se rapprochaient, elle entrait pour ranger du linge dans mon placard. Nous nous écartions alors l'un de l'autre comme pris en faute. Ma mère se lançait dans son rangement, l'air de rien, comme si nous n'étions pas Cathy Mourier et moi assis sur le lit. Elle ne disait pas un mot. Elle venait ranger du linge dans la chambre de son fils, quoi de plus normal. Qu'aurait-elle bien pu interrompre ? Continuez à jouer, les enfants, je range du linge. Le rituel du linge se reproduisait chaque fois que Cathy Mourier et moi étions dans ma chambre. Je soupçonnais ma mère de stocker du linge tout le reste de la semaine pour venir le ranger le samedi, qui plus est, fait troublant, pile au moment du baiser. Nous nagions en plein phénomène paranormal. Plus probablement, ma mère se tenait-elle derrière la porte, guettant le moindre silence pour bondir. Quant à aller plus loin qu'un baiser, c'était inenvisageable. Ma mère aurait débarqué avec le linge de tout le quartier. M'apparaissait ce constat aussi déprimant que surréaliste. je devais ma virginité tardive à un tas de linge propre.
Extrait de Les derniers jours de l'apesanteur de Fabrice Caro, la voix de Jérémy Lopez. Et puis, on va finir cette émission-là en faisant, ben, comme je l'avais commencé, en faisant référence à Cuba. En fait, en faisant référence au Che, à son aventure à moto avant qu'il soit le héros argentino-cubain célébré à Santa Clara pour avoir chassé Batista du pouvoir. Et nous allons faire connaissance avec un jeune homme qui s'appelle François-Henri Désert, qui a écrit d'ailleurs ce bouquin-là et qui nous embarque dans une formidable traversée de l'Amérique du Sud. Il est 5 mois à moto, en stop, en bateau. Une seule contrainte, emprunter l'itinéraire que fut celui d'Alberto Granado et d'Ernesto Che Guevara lors de ce fameux voyage à motocyclette 65 ans plus tôt. C'est ce qui va venir compléter cette émission des livres plein les oreilles. Comme j'aurai pas le temps, je le fais maintenant. Je vous remercie d'en avoir pris connaissance de ce balado et peut-être de le faire suivre à d'autres, pourquoi pas. Et je remercie également Mathieu Tessier de m'avoir prêté main forte. Alors je vous laisse avec cet extrait de « Chagrin d'un chant inachevé sur la route de Che Guevara » de et lu par François-Henri Désérable. Je suis Clotilde Seille, à la semaine prochaine.
Aprendimos a quererte. Sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Je me décidai à prendre la route du Che. Est-ce que mettre mes pas dans les pas du Che n'allait pas s'avérer écrasant ? Non, car je les mettais dans ceux d'un jeune homme. Un jeune homme qui n'était pas le Che, pas encore, et qui, sans ce voyage, ne le serait peut-être jamais devenu. Un jeune homme étudiant en médecine, amateur de blagues et de filles, un jeune homme fou de lecture et fou de rugby, un jeune homme qui aimait nager dans les torrents, escalader des montagnes et monter à cheval, un jeune homme aventureux, imprudent, casse-cou, brouillon, bûcheur, baiseur. Dès 16 ans, un baiseur, un terrible baiseur, nous apprend son cousin. Un jeune homme avec pour seul idéal une idée haute de l'amitié. Et pour meilleur ami, un type de 6 ans son aîné, qui l'emmène avec lui sur les routes. L'itinéraire était tracé. Je n'avais plus qu'à le suivre. Dans ma besace, 3 pauvres mots d'espagnol. No, hablo. Et espagnol. Il me fallait à tout prix un compagnon de voyage hispanophone. En appelant Quentin, je connaissais les risques encourus. Il était intrépide, un danger. Il allait au devant du péril la fleur au fusil. L'aventure ne lui répugnait pas, le romanesque non plus. Depuis quelques mois, il vivait à Lanzarote. Se levait tôt le matin, il allait surfer quelques vagues, et le reste du temps, il se consacrait à la préparation d'un concours extrêmement sélectif qui devait lui ouvrir les portes de la diplomatie. Il venait d'en passer les épreuves écrites. Un désastre. C'était foutu, il n'irait pas à l'oral. Tant pis. Il retenterait sa chance l'année suivante. Le convaincre de m'accompagner n'était pas difficile. Quentin était un voyageur inlassable, emporté par ses désirs d'horizon. S'il était libre, il serait du voyage. S'il ne l'était pas, il se libérerait. Quand un après-midi de décembre, je lui annonçai que j'allais traverser l'Amérique, je n'eus pas le temps de terminer ma phrase, pas le temps d'ajouter du sud à moto. « Mon vieux, je viens avec toi. » Je nous revois un matin sur la butte Montmartre. Il ne fait pas tout à fait jour, nous ne sommes pas tout à fait réveillés. Notre nuit n'est pas faite. Nous quittons l'Europe et, comme César devant le Rubicon lançant à ses légions à Rome, j'entends Quentin dire au chauffeur de taxi d'une voix assurée « À Roissy ». Le taxi devait être à mi-chemin de l'aéroport quand, pris d'un doute, je vérifiais nos billets. L'avion partait d'Orly. Il fallut faire demi-tour, traverser Paris embouteillé dans l'autre sens avant d'arriver à Orly pour s'entendre dire « Embarquement terminé. Par chance, nous étions tombés sur une hôtesse que notre maladresse attendrissait. « Il n'est pas encore midi », avait-elle glissé d'une voix feutrée à ses collègues, « qu'on tient déjà les cons du jour ». Sa sollicitude nous valut d'être casés, moyennant supplément, sur un autre vol qui partait le soir même et faisait escale à Madrid avant de rejoindre Buenos Aires. Voler vers l'ouest est l'accomplissement d'un vieux rêve mythologique. C'est fendre l'espace et remonter le temps. On se prend pour Chronos. On se croit, pour quelques heures, maître et possesseur du sablier que l'on retourne à sa guise. L'avion venait de dépasser Las Palmas. Quentin lisait « Sur la route avec Che Guevara » d'Alberto Granado. Et moi, j'étais plongé dans le récit qu'avait tiré Ernesto de leurs aventures.